Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport. Très heureux d'être avec vous comme tous les week-ends de 9h à midi. Nous sommes en direct le samedi, le dimanche. Merci infiniment de nous écouter toujours aussi nombreux en podcast. C'est tous les mois un nouveau record. Donc vous aimez le week-end tranquillement chez vous, réécoutez cette émission. En tout cas, on a parlé ce matin de France-Écosse. On a également parlé de ce Paris Saint-Germain et de cet immense exploit à Anfield ou encore de Novak Djokovic. Vous pourrez nous réécouter tranquillement dans la journée. Dans quelques instants, la seconde des GG, retour au rugby et au poids de la France dans les instances. Le 15 de France est-il assez respecté? 11h30, le dossier des GG. Il fait froid sur les routes de Paris-Nice. On va faire un petit point météo. Les coureurs sont-ils trop frileux? Ce sera notre question. Et puis 11h45, Dennis Van Weinberg, le skipper belge, le dernier du Vendée Globe, sera notre invité exceptionnel. Et je sais, mes GG, que vous avez pas mal de questions à lui poser. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Sandrine Bonner qui a dit un jour: plus on est chiant, plus on se fait respecter.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On a besoin d'être accompagné par un arbitrage déterminant.
Tu me fais bien, je te fais bien. Tu me manques de respect, je te fais sauter la tête.
On a fait une demande de citation pour ces deux actions avec la volonté que ces actions soient revues très clairement et rejugées.
Mes respects, messieurs.
Tu peux les bouffer, tes respects.
On a cité des joueurs à comparaître devant la commission.
Va te faire foutre avec tes respects.
Nous, les joueurs ne rentrent pas. De l'autre côté, les joueurs rentrent, donc on veut comprendre pourquoi.
Il est où le respect, là? On est quoi, nous? On est des chiens?
Sur cette question-là, on est en colère.
Oui, bien, j'en ai marre qu'on me respecte. J'aimerais bien qu'on me baise un petit peu. Oh.
Je ne citerai pas ceux qui ont fait cette production par respect pour leur famille. Merci beaucoup les copains. Alors, n'importe quoi. Alors, sauf catastrophe, le 15 de France devrait remporter le tournoi Destination cette année. On en parlait à 9h, sauf catastrophe évidemment. Depuis quelques années, sur le terrain, les Bleus gagnent souvent. En coulisses, c'est moins le cas. L'arbitrage en quart de finale de la Coupe du Monde reste encore en travers de la gorge. La blessure d'Antoine Dupont est venue raviver cette plaie. Dans un sport où il faut peser dans les instances, le rugby français, il faut bien le dire, fait encore un complexe d'infériorité. La musique qui fout les jetons. Et cette question: le 15 de France est-il assez respecté? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non. Il marche dessus.
Julien Beneteau?
Il suit les pieds sur.
Quand on sait y faire, oui.
C'est plutôt oui, ok, avec des nuances. Mario Bartoli?
Non.
Non aussi. Philippe Saint-André?
Donc non, on n'est pas assez respecté.
On n'est pas assez respecté. Très bien, avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport de la cellule rugby, Pierre Thévenet. Bonjour Pierre.
Salut messieurs, bonjour Marie.
Les Bleus, salut, c'est Pierre. Vrai, c'est... pas une première, mais c'est assez inédit pour le souligner, mettre la pression sur les instances.
Oui, à tous les niveaux de l'équipe de France, joueurs, staff, dirigeants, tous ont à leur manière mis en avant une forme d'injustice dans ce tournoi Destination. Fabien Galthié, le premier, après la rencontre en Irlande, en colère à cause des blessures d'Antoine Dupont et Pierre-Louis Barassi.
On a cité des joueurs à comparaître devant la commission, il y a des images, donc on a cité. Nous, les joueurs ne rentrent pas, de l'autre côté, les joueurs rentrent, donc on veut comprendre pourquoi. Sur cette question-là, on est en colère.
Ces citations n'ont rien donné. La commission de discipline jugeant qu'il n'y avait pas d'erreur d'arbitrage. Les instances dirigeantes sont alors sorties du bois. Florian Grill, le président de la FFR, et son vice-président Jean-Marc Lhermet pour faire part de leur colère.
La sécurité de nos joueurs n'a pas été préservée. Pour qu'il y ait vraiment une protection, il faut qu'il y ait des sanctions à la hauteur des fautes qui peuvent être faites et du jeu déloyal qui peut être fait. Et aujourd'hui, nous, on est en colère. Pour nous, ce sont des situations anormales.
Situation anormale, y avait-il faute ou non? C'est vrai que la question a beaucoup divisé. Les échanges ont continué. Les Irlandais, eux aussi, se sont un peu agacés des plaintes françaises.
Oui, le pilier, Andrew Porter, qui avait été cité par Fabien Galthié, s'est exprimé, affirmant qu'il dormait très bien la nuit, qu'il s'agissait de faits de jeu. Samedi, à Dublin, les Bleus s'étaient servis de leur colère à la mi-temps pour remporter le match. Sentiment qui anime toujours Romain Tamac.
Que ce soit sur Antoine ou même sur Pierre-Louis, dans d'autres circonstances, je pense qu'à l'inverse, peut-être que nous, on aurait pris un carton rouge. Donc, il y a beaucoup de rage, de frustration. Et encore une fois, j'espère que ça nous servira au groupe pour récompenser ces deux joueurs-là qui ont participé à tout le tournoi, mais qui ne feront pas le dernier match.
L'ouvreur français est aussi revenu sur sa sanction personnelle après son carton rouge contre le Pays de Galles. Rappelez-vous, il avait reçu une suspension de 2 matchs avec interdiction d'en purger un des deux dans un week-end de top 14 avec le Stade Toulousain. La commission estimant que cette rencontre, il ne l'aurait de toute façon pas joué. Sauf que quelques jours plus tard, l'Irlandais Gary Ringrose obtient ce droit de purger sa suspension avec son club du Leinster dans une situation similaire. Est-ce injuste pour Romain Tamac?
Oui, clairement. Clairement une forme d'injustice. Ça reste quand même assez incompréhensible. Donc je pense encore une fois qu'il va falloir aussi commencer un peu à taper du poing sur la table, parce que ça peut pas non plus toujours être en notre défaveur et toujours nous coûter cher sur ce genre de commission. Donc il va falloir qu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser et rester focalisé sur l'objectif qui est de remporter le tournoi à samedi.
Taper du poing sur la table, ne pas être toujours du mauvais côté des décisions. Les Bleus, la fédération veut peser. Elle a d'ailleurs communiqué cette semaine pour annoncer la nomination de 5 Français dans les commissions régaliennes de World Rugby, illustrant, je cite, le travail stratégique mené pour faire entendre la voix du rugby français sur la scène internationale.
Bon, est-ce qu'on a changé de contexte? Est-ce que le 15 de France est assez respecté? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Merci beaucoup Pierre Thévenet, tu restes évidemment avec nous pour ce débat. Christophe Cessieux, on n'est pas assez respecté, pas encore?
Non, on n'est pas assez respecté. Le rugby, il faut le rappeler, est un sport qui a été créé par les Anglo-Saxons et qui, 200 ans plus tard, est toujours géré et dirigé par leurs descendants. Longtemps, ces gens-là nous ont dédaignés, nous ont laissé poireauter à l'entrée du tournoi. D'abord, ils faisaient le tournoi entre eux, hein, entre gens de la haute de l'autre côté de la Manche. Il a fallu attendre 1910, soit 25 ans après la création du tournoi des quatre nations, pour qu'enfin on laisse rentrer l'équipe de France. Et encore, on l'a laissé rentrer sur la pointe des pieds.
Il avait commenté par l'équipe de France.
J'étais là lors de la première.
On avait reçu le Bristol d'invitation.
Ouais, j'espère que tu la gardes. Tu sais que ça vaut cher, ça. Donc, 1910, on rentre enfin dans le tournoi, mais 4 ans plus tard, ils nous dégagent du tournoi. Ils nous dégagent parce que on avait fait une petite bagarre comme ça, une petite générale comme ça, comme si c'était interdit de faire des bagarres générales en 1914. Voilà, c'est arrivé une nouvelle fois en 1931, et enfin, depuis, on est accepté comme une nation à part entière, enfin une nation à part entière. Il y a 6 nations qui se partagent les rênes de ce tournoi des 6 nations, mais il y a quand même une majorité d'anglo-saxons, et ils se débrouillent toujours pour nous enfumer. Ce qui s'est passé pendant le quart de finale de la Coupe du Monde, cet arbitre néo-zélandais, tout le monde a dit oui, il y a eu plein de fautes d'arbitrage qui ont été relevées après, mais bon, on va pas changer les choses. Là, franchement, je veux pas appeler à ce que Monsieur Porter soit sanctionné, mais au moins qu'on le convoque, qu'on essaye d'écouter les uns et les autres, qu'on fasse avancer le débat, et pas en disant non.
Il peut pas être convoqué s'ils estiment que c'est un fait de jeu. Ils peuvent pas être convoqués. L'arbitre a très bien expliqué en direct à Grégory Aldrit.
C'est un jeu qui amène à une
blessure Grégory,
gravissime.
Mais alors,
il y a suspicion. Tu sais pas exactement ce qui s'est passé. Eh ben, tu convoques le joueur. T'es pas obligé de le sanctionner, mais au moins tu le convoques. T'essaies d'expliquer. Bah. Tu écoutes ce qu'a à dire la fédération française. T'écoutes ce qu'a à dire l'avocat du joueur. T'écoutes le joueur et tu te fais une décision. Mais là, non, c'est les Français qui nous demandent. Non, on va pas le citer.
Sur Antoine, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me perturbe plus, c'est Ntamack. Ntamack.
Ringrose.
Voilà, Ntamack.
Là,
il prend.
Et Ringrose, il doit prendre.
Voilà.
C'est normal qu'Ntamack prenne.
Il doit prendre.
La situation. Rappelle-nous, Pierre, la situation d'Ntamack avec le deux poids deux mesures.
Romain Ntamack a pris un carton rouge contre le Pays de Galles, a été suspendu de 3 matchs, réduit à 2 matchs. Donc, il avait 2 matchs à purger. L'équipe de France a essayé de convaincre la commission de discipline qu'il y avait un match du Stade Toulousain au milieu 14. Du tournoi destination, qu'il aurait joué ce match-là. Dans les faits, Romain Ntamack ne l'aurait pas joué ce match-là, dans tous les cas. Donc, la décision semblait presque logique, mais était un peu nouvelle. On n'avait pas l'habitude de voir cette décision-là. Sauf que, 2 semaines plus tard, Gary Ringrose, pour le même type de plaquage sur le même joueur, d'ailleurs, le Gallois Ben Thomas, prend la même suspension et les Irlandais ont réussi à convaincre la commission de discipline que lui aurait joué avec le Leinster. Ouais. Alors que, dans le même cas, il n'aurait pas joué. La petite différence, c'est que la France a une liste de joueurs protégés, ce que l'Irlande n'a pas. Donc, voilà, il y a peut-être cette petite différence. Mais dans les faits, Ringrose n'aurait jamais joué avec le Leinster.
Moi, j'entends ce que nous dit Christophe, mais Philippe, est-ce que cette sensation que tu as, j'imagine, vécue quand tu étais joueur, puis sélectionneur, est-ce que maintenant, elle s'atténue tout de même avec le temps? On ne va pas rester sur des cas d'il y a 30 ans.
Alors, ça va mieux, mais c'est vrai que le rugby est géré par les Anglo-Saxons. Et moi, sur la dernière Coupe du Monde, ce qui me gêne, c'est pas que la France. C'est, si vous vous souvenez, de la troisième place. La troisième place, Angleterre, Argentine. Les Argentins se sont fait complètement voler. Les Argentins doivent gagner cette troisième place. Donc, il y a un problème quand même, c'est que c'est géré par les Anglo-Saxons. Il y a deux nations qui n'ont jamais été championnes du monde, qui sont deux grosses nations. c'est l'Argentine et la France. Par contre, là, il y a une vraie stratégie de la part de la Fédération française de rugby. Il faut rentrer dans les institutions, il faut rentrer dans les commissions. Je vais vous donner juste deux exemples. Qui actuellement fait les règles de rugby? C'est l'hémisphère sud. Les Australiens, ils sont pas bons en mêlée. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, les mêlées, on perd trop de temps. Et donc, nous, les gens, ils changent de chaîne, ils vont regarder le rugby à 13. Et maintenant, sur un bras cassé, tu ne peux plus prendre mêlée. Alors que nous, en France, on a une culture, la mêlée est importante. Les Néo-Zélandais, les Australiens, ils veulent aussi annihiler les ballons portés, qui est quelque chose culturellement qui est très important pour l'Afrique du Sud.
C'est eux
pour...
qui ont décidé les cartons oranges aussi. Enfin,
les, je veux dire... les cartons oranges. Et donc il faut.
Moscato, il n'aurait jamais joué.
Donc il faut être présent dans les. Il faut être présent dans les commissions. Alors il y a eu Bernard Lapassé qui avait fait quelque chose en étant président de World Rugby. Mais maintenant là, il y a une vraie stratégie. Il y a 5 personnes qui sont rentrées de la Fédération française de rugby et il faut aller dans les commissions. Alors des fois, il faut aller faire des réunions en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais il faut être présent.
C'était totalement le discours de Bernard Laporte. Hein. D'ailleurs, on l'avait reçu. Oui. Je me souviens. Avec Marion.
Il voulait devenir patron de l'IRB.
Non, mais même lui,
il y avait quelqu'un qui était descendu.
Non, mais il avait dit
etc.
que s'il était exactement, s'il était encore en poste, ce serait pas passé.
La chaise, la chaise vide.
Ça,
la chaise vide est terrible, et surtout quand on est latin et que c'est géré par des anglo-saxons. Il faut être là, il faut être présent, et surtout, en plus, il faut parler anglais. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, on a des dirigeants qui parlent anglais. Avant, moi, quand je jouais, nos dirigeants, il n'y en avait pas un qui parlait anglais. Donc, du grand.
Mais quand après, tu parles anglais, ils te comprennent ou non, Philippe?
Oui.
Moi, je te comprends, justement. Oui,
oui. Nous, je peux comprendre. On a eu Jean-Gilles, qui parlait très bien anglais dans
quand il y avait Ferras, il arrivait, il fumait un gros cigare et il disait bonjour. Il disait même pas hello.
Précision de Pierre Thévenet.
Pour revenir à ce que dit Philippe sur l'importance d'avoir du monde dans les commissions, Abdelatif Benazi s'est présenté à World Rugby et tout ça est éminemment politique. Il a perdu face à Brett Robinson, un Australien.
Il a perdu en finale.
Il a perdu en finale et ça a été du jeu politique d'aller chercher des voix à gauche à droite. C'est très très important.
T'es plus nuancé toi, Julien. Pourquoi le 15 de France est assez respecté?
Alors, dans les instances, dans les commissions, effectivement, c'est compliqué tant qu'on n'y est pas. Je rejoins Philippe, Christophe et Pierre là-dessus. Moi, c'est sur l'arbitrage. Et c'est un sport vraiment, et c'est vraiment, comment dire, atypique au sport
du rugby. C'est propre au rugby, ouais.
C'est très, très propre au rugby de faire du lobbying et d'avoir un impact là-dessus. Et Fabien Galthié l'a fait la semaine
de l'Irlande. Et il a gagné son bras de fer avec l'entraîneur irlandais.
Voilà, exactement.
Et je l'avais annoncé, j'avais trouvé ça très cohérent et intelligent.
Exactement, et c'est pour ça et je m'appuie sur ce qu'a dit Philippe depuis sur le dans les différentes émissions sur RMC après le match d'Irlande. Où il a dit, on a été très bien arbitré en Irlande. Ils ont pris des cartons jaunes, il y a eu les fautes qui ont été sifflées à bon escient, etc. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est vraiment propre à ce sport, cette relation entre l'arbitre et les joueurs, cette pression insidieuse. On parle de ce quart de finale de Coupe du Monde, mais moi, pour moi, le plus grand scandale, c'est la finale de 2011 en Nouvelle-Zélande, où il doit y avoir des pénalités sifflées dans les 10 dernières minutes pour les Français face au poteau. Et là, l'arbitre, il sait qu'il va faire
contre Mako.
Comme Mako. Et un grand consultant du rugby dit, j'ai compris qu'on sifflerait pas à ce moment-là, c'est quand l'arbitre, il appelle Mako par son prénom pendant le match, et que le capitaine français, ce jour-là, je sais plus qui c'est, il l'appelle par son nom.
C'était Thierry Dion, voilà. Et il dit Richie.
Et il l'appelle, et donc là, la relation, elle est faussée. Donc ça veut dire que l'influence dans ce sport, parce que c'est un sport qui est très difficile à arbitrer et sujet à interprétation malgré l'appel de la vidéo, est très important. Donc
c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce qu'a dit Olivier Létang concernant l'arbitre du match de Lille la semaine dernière, qui était un arbitre suisse-allemand, et l'arbitre suisse-allemand parlait en allemand avec les joueurs de Dortmund, et ça, c'est appelés par
ça, c'est pas normal. Un arbitre doit s'adresser aux joueurs de la même manière dans tous les sports.
Alors, surtout,
moi, au tennis, ça me rendait dingue quand je jouais quelqu'un de plus fort avec une aura, etc. Au-delà de la balle faute du jugement, en plus on a le hockey, etc. Mais il y a des faits de jeu, il y a des trucs, la manière dont on s'adresse aux joueurs.
Tu le ressentais aussi,
bien sûr. On sent une différence.
C'est évident.
Et ça, c'est pas normal.
Est-ce que tu as l'impression, quand t'es français, justement, de te faire enfler par les anglo-saxons dans le monde du tennis?
Dans le monde du tennis, non.
Du classement et du palmarès.
Mais là, l'importance d'avoir Aldrit.
Bien sûr, il parle très bien d'anglais.
Oui, il est à moitié écossais, 50% écossais. Et donc là, on voit dans. dans la discussion avec les arbitres et on a pu voir qu'Aldrit avait mis une grosse pression à l'arbitre en Irlande sur la blessure d'Antoine Dupont.
La seule différence du rugby par rapport aux autres sports, c'est l'interprétation des règles. L'arbitre a plusieurs façons d'interpréter les règles et c'est pour ça qu'il faut faire du lobbying, c'est pour ça que Galtier a mis pas des avertissements mais des petites notes à l'arbitre, des warnings, et ça peut faire un peu changer.
Bien sûr, parce que Marion Bartoli.
Mais moi, je suis complètement d'accord, effectivement, avec Philippe et Christophe. Pour moi, en fait, quand tu regardes même la manière dont est composée World Rugby, avec aujourd'hui, depuis 2016, elle est composée de 40 membres, mais il y a les huit premières nations affiliées, ce qu'on appelle les nations fondatrices, qui ont donc deux représentants permanents. Les huit nations, il y en a sept qui sont anglo-saxonnes. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et t'as la France en huitième. Donc, comment tu veux arriver à avoir le même poids? Comment tu veux arriver, effectivement, à pas te faire enfler quasiment à chaque fois? Et comment tu veux essayer d'avoir un arbitrage qui soit à peu près correct et à peu près cohérent? C'est évident que, de toute façon, il y a un deux poids, deux mesures, et on sait très bien. Et même dans notre groupe WhatsApp, quand on a échangé sur ce sujet, justement, ça a été ma première, vraiment, réponse instinctive, c'est que c'est tellement politique et c'est tellement politisé que, de toute façon, à ce petit jeu-là, pour l'instant et malheureusement, on se fera toujours avoir au coin du bois. Alors, j'espère que les choses vont évoluer. J'espère qu'effectivement, la France va pouvoir, par ses résultats, obtenir aussi un poids supérieur dans les instances. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est pas du tout nous qui sommes en avant et c'est pas du tout nous qui conduisons le camion. On fait que subir. On subit. Alors, on arrive à gagner quand même sur le terrain parce qu'on a une génération qui est absolument exceptionnelle et que je pense qu'au final, on finira quand même par être champion du monde. Mais c'est quasiment contre nous, quand on voit l'arbitrage en 2023, enfin, je veux dire, ce match-là, j'ai trouvé les joueurs français tellement stoïques en disant oui, bon, c'est peut-être éventuellement un tout petit peu fait avoir sur l'arbitrage, mais bon, ça fait partie du sport, ça fait partie de notre sport. À un moment donné, je pense qu'il faudra vraiment que les choses bougent. Et tu as bien fait de rappeler cette interview qu'on avait fait effectivement avec Bernard, qui nous l'avait rappelé quand même très clairement et qui a été dans les plus hautes instances de World Rugby. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on tape du poing sur la table et que ça suffit. Parce que trop, c'est trop et qu'il y en a ras-le-bol à chaque fois de se faire avoir par les anglo-saxons.
Taper du poing sur la table, c'est ce qu'a dit Romain Ntamack. Si on gagne, est-ce que ça nous achète un droit de regard sur ce qui se passe dans les instances, si on gagne le tournoi destination, la Coupe du Monde, ou non? Ça n'a rien à voir avec le terrain.
Déjà, de gagner, c'est important parce que tu montres que t'es la meilleure équipe européenne. Mais surtout, là, voilà, on a Benazi qui est rentré, il y a Olivier Lévremont, il y a Daré qui a été champion du monde à 7, qui rentre dans une commission. Là, on va commencer à porter et c'est une vraie stratégie pour la prochaine Coupe du Monde en Australie.
Ok, il faut être stratège, donc, sur le terrain, oui. Mais il faut être stratège.
Surtout en dehors.
On tisse la toile pour 2027.
Exactement.
Bill Beaumont a été élu en 2016, réélu en 2020. Et là, c'est Brett Robinson qui est un Australien. Et Bill Beaumont est un Anglais. Déjà, ça fait quelques années qu'on n'y est plus à la tête de World Rugby. Hein.
Allez, on y croit, les copains du rugby. Il faut gagner ce soir face à l'Écosse pour valider le tournoi destination. Et puis après, voilà, on fera des émissions sur les instances aussi. Et puis là aussi, il y a des combats à mener. Merci en tout cas, les GG de vos observations. Merci Pierre Thévenet, que l'on retrouve ce soir en direct du Stade de France. Je vous rappelle ce rendez-vous à partir de 20h, prise d'antenne en direct du Stade de France avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier, Denis Charvet, Pierre Thévenet. Coup d'envoi 21h. Et ensuite, on vous emmène jusqu'au bout de la nuit, l'after rugby, exceptionnellement autour de ce match France-Écosse. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de cyclisme. Il fait froid sur les routes de Paris-Nice, c'est ça. Il y a certains coureurs qui n'aiment pas. À tout de suite sur RMC, c'est le dossier des GG.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h29, Marion Bartoli, Philippe Saint-André, Julien Beneteau, Christophe Cessieux, c'est votre casting des grandes gueules du sport ce matin. Dans 10 minutes, nous serons avec un invité exceptionnel. Il a terminé dernier du Vendée Globe, il est belge, il s'appelle Denis Van Weinberg. Et il sera notre invité. On a beaucoup de questions à lui poser, lui qui est arrivé hors délai. On a envie de recueillir ses premiers propos une semaine après son arrivée et ses 117 jours de galère. Mais tout de suite, on va parler de Paris-Nice, les copains. Et il fait pas beau.
RMC, le dossier des GG.
Les conditions vont pas s'améliorer hein, pour les kilomètres qui arrivent. Allez, et on voit les grêlons là qui s'échappent du sillage hein, de la roue arrière d'Andreas Leknesund. On le tralise.
Il y a des conditions, il y a des protocoles météo.
Alors j'allais justement, il y a 10 secondes, je me suis dit tiens, on va peut-être parler du protocole météo. La course peut-elle être neutralisée? La réponse est oui.
La réponse est oui, c'était sur France Télévisions et cette compétition, ce Paris-Nice, est à suivre sur France Télévisions, également commenté sur RMC. Alors, il n'y a plus de saison, paraît-il. Les coureurs cyclistes vont devoir s'y habituer sur les routes de Paris-Nice. La météo se révèle parfois plus difficile à appréhender que le parcours en lui-même. Mercredi, vous l'avez entendu, la quatrième étape entre Vichy et la Loge des Gardes a été neutralisée par les organisateurs pendant environ 45 minutes à la suite d'une averse de grêle avant de reprendre. Et pour certains coureurs, à l'image du maillot jaune, Jonas Vingegaard, la course aurait dû être arrêtée. Le double vainqueur du Tour de France a depuis quitté la course après une chute jeudi. On va retrouver notre envoyé spécial Kevin Morand. Bonjour Kevin.
Salut Jean-Christophe, salut les GG.
C'est vrai, je le disais, que cette quatrième étape a divisé le peloton.
Oui, et la position de Vingegaard a inspiré au responsable de la sécurité sur Paris-Nice, Thierry Gouvenou, cette réponse. Alors je cite, on a eu des Paris-Nice dans 5 à 10 cm de neige, ou alors on devient comme le tennis, dès que les conditions sont un peu difficiles on bâche, mais on va perdre l'âme du cyclisme, peut-être aussi que les coureurs passent trop de temps au soleil en hiver. Alors je suis allé demander aux Manceaux Thomas Gachignard et au nordiste Adrien Petit ce qu'ils en pensaient.
Le froid, je suis pas adepte. La pluie, c'est pas ce qui me dérange, mais dès qu'il fait froid, faut vraiment être bien couvert. J'aime pas trop rester au milieu du peloton parce que c'est pas là où il fait le plus chaud, donc je préfère faire quelques efforts.
On n'est pas tout l'hiver en Espagne ou au soleil, enfin surtout pour ma part, mais bon, entre rouler seul à l'entraînement et rouler dans un peloton et prendre toutes les éclaboussures d'eau à 2 degrés, c'est pas hyper agréable.
En plus des stages en Espagne, beaucoup de coureurs habitent aussi sur la Côte d'Azur. Lui est auvergnat. Rémi Cavagna explique l'évolution de sa tolérance au froid.
Même moi, il y a quelques années, je supportais plus le froid parce que je partais vraiment à l'aventure. N'importe, il y a un temps comme ça, j'étais en cuissard court, maillot court, ça me faisait pas peur. Et c'est vrai que j'aime bien mettre ma petite veste maintenant, peut-être un petit confort. En plus, avec les stages en Espagne où il fait 15, 20 degrés, où on roule en cuissard court, c'est vrai que ça va pas dans ce sens-là. Après, on peut pas comparer le cyclisme d'avant et le cyclisme de maintenant. Mais ouais, peut-être qu'on est un petit peu plus frileux, on va dire.
Alors, quel effet a le froid sur le corps? Écoutez, Hubert Long, le médecin de l'équipe Arkea BNB.
Le plus terrible, c'est le froid humide. Ça fait deux agressions organiques, toujours des facteurs défavorables. Sur le corps, ça provoque plusieurs phénomènes, des gelures des extrémités qui peuvent arriver, et aussi des phénomènes respiratoires. Ça favorise ce qu'on appelle les bronchospasmes respiratoires. Troisième effet défavorable, la fréquence cardiaque augmente, et donc il faut diminuer l'intensité de l'effort.
Pommade chauffante, boisson chaude permettent d'atténuer le froid. Mats Pedersen, le Danois vainqueur d'étape hier, aime lui ces conditions.
Dans l'échappée, les Norvégiens et les Danois ont été les seuls sans veste de pluie. Ça aide d'être habitué à nous entraîner dans ces conditions, mais il y a aussi une part de mental. Il faut garder un bon état d'esprit et ne pas s'apitoyer quand la météo est difficile.
C'est vrai que depuis mercredi, les températures dépassent à peine les 5 degrés. Jeudi, il neigeait à petits flocons au départ. Hier, une pluie battante et glaciale. Thierry Gouvenot.
Il faut regarder aussi la semaine qu'on vient de passer et on doit s'adapter. C'est pas un match entre les organisateurs et les coureurs. Voilà, il faut faire attention à leur confort parce que c'est pas confortable, mais à les respecter. Il faut pas non plus toujours être en train de faire un conflit de génération. Ils sont encore l'âme guerrière.
Aujourd'hui, les coureurs montent à 1600 mètres d'altitude vers Oron avec peut-être de la neige en fin d'étape et un petit degré seulement.
Excellent reportage, hein, on a tout compris. Merci beaucoup Kevin Morand. C'était extrêmement intéressant d'entendre et les organisateurs et les cyclistes et nous dire que ce n'était pas forcément un conflit entre les deux. Mais cette question, les GG, vous l'avez entendu d'ailleurs dans la bouche d'un cycliste. Les coureurs sont-ils devenus trop frileux? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je pense que oui.
Ok, c'est plutôt oui. Marion Bartoli.
Je pense que non.
Philippe Saint-André.
Non.
Julien Benedetto.
Non.
Il est encore tout seul, Christophe. Bah, dis-nous pourquoi oui, Christophe, et puis après tu entendras les
non,
réponses.
Non, mais je
c'est, toi c'est qui es dans ce qui est l'amoureux du cyclisme.
Hein. Incroyable. Alors, autant je comprends que lorsqu'il s'agit de problèmes de sécurité, comme les organisateurs, lorsqu'ils décident d'arrêter les courses, sous la pression des coureurs, je trouve ça tout à fait normal. Et c'est ce qu'ont fait les organisateurs de Paris-Nice dans cette étape. Ils tombaient une étape, des monceaux de grêle, c'était pas possible au terme de sécurité. Donc, ils arrêtent la course. Ils font patienter les mecs. Évidemment, quand t'es à l'arrêt, tu viens de prendre une averse de grêle, tu te gênes un peu les fesses, t'as pas chaud. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, t'annules la course, tu les empêches de repartir parce que Vingegaard s'est plaint en disant on n'aurait pas dû reprendre. Bon, ben ok les gars, mais si vous voulez plus de courses, on fait plus de courses. Si vous voulez des courses uniquement dans le désert, comme il y a eu la course de l'UAE, là vous êtes sûr, vous aurez pas de froid. Si vous voulez que des courses au mois de juillet, comme le Tour de France, ce sera parfait. Vous pouvez aussi faire des courses courses, protéger des courses.
Il y a 50 kilos tout mouillé, ça cause des efforts surhumains.
Mais, écoute, Marion, tu connais pas l'histoire de ce sport. Je connais rien en tennis, mais toi, tu connais rien à l'histoire de ce sport. Ce sport, ce
c'est
sont
bien
les
de reconnaître
que
tu connais rien en tennis.
Ce sont les, ouais, mais reconnais aussi que tu comprends rien.
Allez-y,
ce sport, ce sont les forçats de la route. Ces mecs qui ont gagné des courses dans des conditions hallucinantes. Alors, je veux bien qu'on ne soit plus au début du 20e siècle, que les mecs ne fassent plus des étapes de nuit, que les mecs ne se fassent plus taper par des supporters sur le bord des routes à coups de battes de baseball. Ok, bien, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais tu peux pas non plus enlever l'ADN de ce sport. Ce sport, c'est un sport d'extérieur. C'est un sport qui est fait et qui est couru dans toutes les conditions. Paris-Nice, on le sait, c'est au mois de mars. Tu pars du nord, tu vas vers le sud. Depuis toujours, il y a eu des conditions comme ça. Dans quelques jours, ils vont attaquer le Tour d'Italie au mois de mai. Dans le Tour d'Italie, tu passes entre les congères. Il peut qu'il neige. Voilà, c'est comme ça. Jonas Vingegaard, je t'explique pourquoi il se plaint. Parce qu'il fait 10 kilos tout mouillé, parce qu'il a qu'un objectif, c'est le Tour de France. Et que quand tu fais 10 kilos tout mouillé et que tu te fais tremper la gueule, évidemment, t'as froid. Donc voilà pourquoi.
Et il a explosé dans la côte Saint-André.
L'objectif, c'est d'être au Tour de France. Et lorsqu'il est dans le Tour de France, évidemment, les températures de 30 degrés, là, ça l'avantage. Et les gros Danois et tout ça, eux, ça les avantage pas parce qu'ils souffrent de leur poids et dans des conditions où ils payent hyper chaud. En canicule, c'est difficile. Juste un dernier truc. Je conseille à Jonas Vingegaard, je vous conseille à vous tous aussi, d'aller regarder sur YouTube un certain Liège-Bastogne-Liège, 1980. Ce jour-là, il neigeait. Les températures étaient négatives. La plupart des mecs ont abandonné. Mais il y en a un qui a pas abandonné. Il avait un maillot arc-en-ciel sur les épaules. Et il est allé jusqu'au bout. Il s'appelait Bernard Hinault. Il a eu 3 engelures au doigt. Ça lui a coûté vraiment pendant quelques mois. Mais c'était un warrior. Et ce mec a gagné Liège-Bastogne. Voilà.
La séquence c'était mieux avant est revenue.
Elle revient de temps en temps. Ok, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Les copains du tennis, ils vous ont interpellé, Thierry Gouvenou. Il a dit on n'est pas le tennis, on va
mâcher. Il donne les arguments à la fois pour et contre, Christophe. Le premier truc, pourquoi c'est arrêté? Ils sont trop frileux. Ils ont arrêté la course. C'était uniquement sur le problème de sécurité. Après, il y en a qui ont dit, exactement, oui, il fait froid et tout, c'était dur de repartir.
Jonas Vingegaard a dit, je veux pas reprendre parce qu'il fait trop froid.
Non.
Il a quand même repris.
Et ben alors.
Donc,
Aujourd'hui, celui qui, j'ai oublié le nom du journaliste qui a présenté l'enrobé.
Kevin Moore.
Arrive à Oron, il y aura de la neige, etc. Mais il n'y aura pas des non-partants parce que j'ai trop froid. Ils vont tous y aller. Donc, ils ne sont pas trop frilés. C'est des forçats de la route.
Sauf que moi, je te réponds que Cavana dit dans le reportage, bah oui, peut-être qu'on est devenu aussi un petit peu plus frileux parce qu'on s'entraîne à des altitudes. Ce que dit Thierry Gomes,
ils s'entraînent tout l'hiver en Espagne.
Le cyclisme est mort. On dit juste qu'ils ont d'autres préparations.
Mais bien sûr, la préparation a été complètement différente avant. Avant, tu te préparais, tu attaquais Paris-Nice, c'était la première grande épreuve de l'année. Donc, tu avais des conditions comme ça, et puis les autres, ils étaient dans les classiques en Belgique, et je peux te dire que dans les classiques en Belgique,
moi je pense que c'est chaud, aussi le début de saison froid, et qu'il y en a qui sont pas encore prêts physiquement et qui sont, parce que la même température, hormis les trucs de sécurité, les mêmes conditions, et parfois il y en a, que ce soit dans le Giro, il peut peut-être y en avoir dans le Tour de France au sommet des Pyrénées ou dans les Alpes avec des conditions dantesques, les mecs se plaignent rarement et disent ouais c'était dur, on a souffert. Mais moi, c'est tellement dur. Et ce qu'ils font, c'est tellement dur. Je les respecte tellement pour ça que j'ai du mal à dire qu'ils sont trop frileux.
Ok, voilà. Marion et Philippe, Marion.
Je suis complètement sur la même alignée, sur exactement la même chose que Julien. Pour moi, j'ai un tel respect pour ce qu'ils font. Encore une fois, même dans ce problème finalement du froid, c'est le problème de sécurité, moi, que je mets vraiment en avant. Et ça a été dit par le médecin. Si à un moment donné, t'as des gelures au niveau des doigts, que t'es plus capable de freiner et que t'as un coureur qui rate le virage et qui se tue dans une descente, on va dire quoi? Ah ouais, mais c'est dommage, il avait eu froid aux mains. Tu peux pas continuer quand même éternellement à faire prendre à ces coureurs cyclistes, ça reste du sport, des risques qui sont complètement insensés. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on finit par les écouter.
Non, c'est mais là, c'est le risque, Marion. Mais le risque, on est d'accord.
Mais ça fait partie. Ça fait partie de l'évaluation globale d'une sécurité.
Autrement, t'arrêtes de faire du ski aussi pendant ce temps-là. Parce qu'il fait froid. Ah bah il fait froid. La neige, elle est froide. Non, mais oui. Où on va là?
Tu me parles d'une discipline où ils ont l'habitude de s'entraîner dans le froid par rapport à une discipline où les gars viennent prendre 45 minutes de la graisse dans la tronche. Non, mais de quoi tu parles, Christophe? Je veux bien laisser dire un nombre de bêtises incalculables pendant 3 heures, mais au bout d'un moment donné, il va falloir quand même écouter les autres.
On va les compter parce que je suis pas sûr de gagner quand même par rapport à toi.
Non, ça devient ridicule. Il y a quand même une voiture de l'équipe Décathlon AG2R de la mondiale qui a été accidentée pendant cette période de grêle. Donc à un moment donné,
c'est pour ça qu'ils ont arrêté la course, mais là on est d'accord. Le problème, c'est que tu confonds tout, Marion. Tu confonds le froid et la sécurité. C'est pas du tout la même chose.
Ils se sont arrêtés. Qu'il y ait certains coureurs qui se soient plaints, ils ont quand même repris. Ils n'ont pas de soucis. Bah non, on se met en grève, on ne reprend pas. Donc non, ils ne sont pas plus frileux qu'avant. Okay. Simplement qu'il y ait des coureurs aujourd'hui qui demandent à avoir quand même des enjeux de santé, des sécurités qui sont un tout petit peu plus mises en avant par rapport aux contraintes qui s'imposent tout au long de l'année.
De vélo,
moi, je trouve ça totalement normal. Je suis désolée.
J'ai un invité qui nous attend.
Mais arrête, tu n'as jamais fait de sport de haut niveau.
Alors tu sais quoi, je te donne 20 secondes, même si c'est peu, je te les donne quand même parce qu'il y a un invité qui nous attend, les copains.
D'abord, moi, j'adore ce que Christophe vient de dire. C'est le old school, etc. Après, on est maintenant en 2025. C'est l'évolution de la société, des mœurs, et la sécurité des sportifs est une priorité. Nous, au rugby, avant, on faisait un KO le mardi. Si on jouait pas le samedi, on s'échappait. Maintenant, il y a un KO, il y a des protocoles, ils vont voir des spécialistes, etc. Donc, on est vraiment dans la sécurité, mais la sécurité à 200%. Et c'est vrai que dans des conditions, des fois, climatiques, moi, je comprends pas pourquoi les cyclistes ne continuent pas. Mais par contre, si tu as un accident, etc., tout le monde se couvre parce que c'est la société qui est actuellement comme cela.
Ça fait partie de l'évolution. Donc, ils ne sont pas forcément devenus plus frileux, mais il y a plus de sécurité. Donc, parfois, le froid fait aussi partie, non pas de cette sécurité, mais c'est dans la périphérie. On a bien compris. Merci beaucoup d'avoir respecté ces 20 secondes. Et Marc Madiot est totalement d'accord avec toi. Il vient de t'envoyer un petit message.
Petit message de Marc Madiot. Il me dit, tu as raison. Voilà.
Voilà.
C'est donc, j'écoute
c'était
le maître.
C'était peut-être à moi qui l'envoyait ce message. On se retrouve dans quelques instants avec le dernier du Vendée Globe. On va lui rendre hommage. Il sera notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
La dernière ligne droite des grandes gueules du sport, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Philippe Saint-André, Julien Beneteau. À partir de midi, restez bien avec nous, les paris RMC autour de cette journée de Ligue 1, mais aussi du tournoi des Six Nations. On vous donnera les meilleures cotes, notamment autour de ce France-Écosse. Mais tout de suite, notre invité. Après 117 jours de galère, Dennis Van Veenberg a bouclé son tour du monde en solitaire. Enfin, le skipper belge a franchi la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne samedi dernier, hors délai, vous le savez, 24 heures trop tard. Il n'est donc pas devenu officiellement le premier belge de l'histoire à terminer le Vendée Globe, même si dans le cœur des Belges et aussi des Français, il a quand même réussi cet exploit. Dennis Van Veenberg, skipper de l'IMOCA d'Antirène Group et dans les grandes gueules du sport. Bonjour Denis.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre super émission.
Merci d'être avec nous, c'est un véritable plaisir. On voulait déjà vous avoir la semaine dernière. Bon, on sait que, évidemment, c'est compliqué, il faut se remettre de ses émotions. Première question, une semaine après, il reste quoi de ce Vendée Globe?
Il reste un sentiment indéfinissable de travail accompli, de contrat rempli, de plénitude, de joie, d'amour qu'on est venu me donner au Sable d'Olonne, d'affection. Voilà, c'était énorme. Comme je disais, j'ai jamais pris de drogue, mais je pense que c'est beaucoup mieux. Je suis toujours sur un nuage, un peu en lévitation, comme un moine bouddhiste qui serait en pleine prière, mais... Voilà, il reste ça en fait. Pour le moment, il reste ça et on n'a que du bonheur en fait.
Denis, quand on vous a appris que vous alliez pas être classé et donc que la ligne n'allait pas être matérialisée pendant l'arrivée de ce Vendée, est-ce que vous avez eu peur à un moment d'arriver comme ça incognito dans le port sans que personne vous dise et que le capitaine du port vous dise « Oh ben garez-vous là quoi !» Mais est-ce que vous avez eu peur finalement d'arriver tout seul abandonné ?
Dans l'anonymat.
J'ai pas pensé à ça. mais ce qu'il y a, c'est que en fait, 10 jours ou 5 jours avant, j'étais prêt à abandonner et 2-3 fois, on avait des plans justement d'abandon et on avait discuté avec la direction de course. Donc, moi, je me suis dit, même si j'arrive, qu'il n'y a personne, en tout cas, j'aurais fait le boulot. Et voilà, moi, j'ai respecté l'esprit de la règle puisque j'ai même pas déplomber mon moteur plutôt quand la ligne était fermée déjà. J'ai fait le parcours, je suis passé dans les portes de ligne d'arrivée et tout, qui sont des portes virtuelles évidemment. Mais voilà, donc j'estime qu'il y a la règle et puis il y a l'esprit de la règle et nous on a respecté cet esprit de la règle à 200%. Donc même s'il y avait eu personne, je pense que j'aurais eu le même sentiment. Mais après c'est vrai que quand il y a du monde pour vous accueillir, ouais. Vous rendez compte que vous avez suscité quelque chose. Ouais.
Et vous avez été accueilli comme un héros. Hein. Ouais, on en parlait.
Avec des gens qui étaient déguisés en frites, hein, avec des gens déguisés en frites.
Comme tout. Hein. Il est belge, évidemment.
Non, c'est la fédé de la Loose. Ils étaient là.
Les symboles. Julien et après Marion. Julien.
Oui, bonjour Denis. Justement, sur le fait de l'aspect sportif, le fait de ne pas être classé officiellement, alors que vous avez respecté toutes les règles et que vous avez tout fait entre guillemets dans les normes, sauf d'arriver entre guillemets hors délai. Est-ce que sportivement c'est une entre guillemets une déception? Est-ce que comment vous vivez ça ou est-ce que c'est vous considérez que c'est normal entre guillemets comment vous vivez ce déclassement entre guillemets?
Il y a deux options. Hein. Je dirais que oui, comme je disais juste avant, il y a la règle et puis l'esprit de la règle. Nous, en tant que marins, on a fait le boulot. La règle, c'est une histoire de terrain. Donc, des règles, ça peut changer en bonne intelligence et en réflexion. Maintenant, ils ont gardé l'optique de rester plutôt intransigeant là-dessus. Après, je suis sportif, donc l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Hein. Je pense que c'est important sur un terrain de sport de respecter ça.
On a un petit problème, un petit souci technique avec la liaison. Évidemment, on va retrouver Denis, notre skipper belge, dans quelques instants. Oui, Denis est revenu. Denis.
Il est reparti.
Denis, il est reparti faire le Vendée Globe, peut-être. On ne sait pas. On va rétablir la liaison. Il est 11h49. Vous écoutez RMC dans quelques instants. Les paris RMC. Mais on va rester, évidemment, avec Denis Van Vinberg, qui a donc terminé dernier de ce Vendée Globe, vous le savez. Et c'est peut-être aussi l'une de ses réussites. Parce que moi, j'ai envie de vous interpeller, les GG, rapidement. Quand on termine avant-dernier, ben, on n'a pas la lumière. Mais dernier, hors délai,
bien sûr,
la lumière.
C'est ça. Mais tu sais
qu'autour de France,
ils se battent pour être dernier. Alors, c'est moi. Le cas
maintenant, il se battait.
Il fut un temps, la lanterne rouge était un objectif. Tu avais le maillot jaune, évidemment, le premier, mais être dernier avant la lanterne rouge, d'abord parce que tu touchais une prime plus importante, et à la fin, ils se bagarraient pour terminer dernier. Donc, ils étaient un peu largués à l'arrière, les mecs.
On a retrouvé notre skipper belge. Denis, on a eu peur que vous soyez reparti pour faire un Vendée Globe, mais je ne suis pas sûr que ce soit prévu tout de suite.
Non, pas tout de suite, non.
Très bien. Marion Bartoli, une question pour Denis.
Moi, j'ai une question, effectivement, Denis. Bon, tout d'abord, félicitations, parce qu'en plus, vous avez parcouru cette distance avec une équipe 100% bénévole. Vous étiez vous-même, en 2018, patron de PME, et vous êtes lancé dans cette ambition pharaonique et démesurée d'arriver à réaliser le Vendée Globe. Donc, j'aimerais savoir, justement, dans cette entreprise 100% bénévole, où je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de débrouillardise, comment s'est passée aussi la préparation pour en arriver, justement, à prendre ce départ du Vendée Globe et de réaliser ce magnifique parcours?
C'est vrai que c'était un vrai challenge. Hein. Déjà, c'était un vrai challenge d'assumer un projet Vendée Globe en Belgique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de culture voile en Belgique, comparé à la France ou d'autres pays. Donc, c'était, je dirais, la première victoire, c'était d'annoncer le projet. La deuxième, c'était de trouver un partenaire qu'on a trouvé. Et après, on a eu des qualifs. Hein. C'est comme pour les JO, il faut se qualifier, ou pour une Coupe du Monde. Donc, c'est 4 ans de navigation, 4 ans de qualification. Et la qualification, je l'ai validée en juin en arrivant à New York. Sur une course qui arrive à New York, donc c'était aussi un peu comme dans les films, hein, parce que on arrive à New York et on est qualifié, donc au pied de la skyline de Manhattan, donc forcément ça rajoutait, je dirais, du suspense et un peu de dramaturgie dans toute cette épopée. Et puis après, il y a eu toute la préparation pour le Vendée Globe. On a quand même eu un professionnel de la course au large qui avait plusieurs tours du monde à son actif, qui est venu nous rejoindre pour nous conseiller. Et puis on a continué à avancer comme ça, en tout cas.
Philippe Saint-André pour Denis.
Ouais, Denis, quelle a été la plus grosse galère durant cette compétition? Je sais que tu en as eu beaucoup, mais quelle a été la plus grosse?
Je dirais que les galères, elles ont commencé le 12 novembre et puis elles se sont terminées
le
7 mars. Non, c'est vrai qu'on a cumulé certaines choses et que en fait, le fait d'être arrivé hors délai, c'est la dernière grosse galère, c'est-à-dire la perte de ma grand voile qui a fait que je pouvais pas avoir de vitesse. Et que je suis remonté deux fois au mât pour essayer de faire des bricoles et que, in fine, on a fait quelque chose qui était un peu provisoire et aléatoire, mais qui a tenu. Mais par contre, on a pris des risques parce que ça pouvait faire tomber le mât. Donc c'est vrai qu'avec ça, je pouvais pas avoir une vraie vitesse. C'est comme si j'avais qu'un tiers de mon moteur. Hein. Donc les 24 heures, ils sont là. Hein. Il faut pas chercher plus loin. Je pense qu'avant, on avait navigué en bon père de famille, même si c'était pas des options très très casse-cou ou très rapide peut-être, mais en tout cas c'est comme ça qu'on l'envisageait. Donc voilà, donc après ça fait partie de notre sport, c'est un sport mécanique, hein, et donc la casse fait partie de notre sport.
Denis, entre nous, vous allez être présenté sur la grande place de Bruxelles, je crois, la semaine prochaine. Vous êtes l'invité de beaucoup de médias. Il y a eu beaucoup de monde pour voir votre arrivée. Vous êtes dernier du Vendée Globe. Est-ce que c'est pas...
Il y a trois personnes qui s'en tirent.
Le micro, Christophe.
Il y a trois personnes
qui s'en sortent bien et qui, médiatiquement, dans ce Vendée, c'est le vainqueur, c'est Violette d'Orange et c'est Denis.
Mais oui,
c'est les trois stars, c'est les trois stars du Vendée.
En arrivant en télé comme ça, on a beaucoup parlé de vous.
Ben oui, alors c'est pas le but, hein, on l'a pas fait exprès. On aurait préféré faire autrement, mais c'est pas grave. Alors c'est vrai que ben voilà, être accueilli sur la grande place pour nous, dans la mémoire collective belge, c'est vrai que c'est les grands moments, c'est Eddy Merckx, c'est Justine Hénin, c'est les Diables Rouges, ouais. C'est les champions olympiques. Donc c'est un vrai honneur, une vraie fierté de pouvoir y aller. Alors maintenant, j'espère qu'on sera pas juste 15 à la grande place, parce que sinon, ça va faire vide. Mais voilà, parce que s'il y a juste ma famille et puis mes copains, ça va faire petit. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nous, qu'on a beaucoup parlé du projet. Je vais être reçu par le roi aussi, donc voilà, c'est quand même des moments pour un sportif et pour un projet comme ça, avec toutes les galères qu'on a connues aussi avant le projet, parce que voilà, on n'avait pas de budget. Moi, j'ai dormi dans le bateau pendant 2 ans, donc je pense pas qu'il y ait un skipper Imoca qui dorme dans son bateau. Donc voilà, c'est une vraie consécration quand même par rapport à tout ça.
Ouais. Vaut mieux arriver hors délai dans ces cas-là, quand on voit l'histoire d'incroyable de Denis.
Vous êtes un peu, Denis, le contre-exemple de ce qui est devenu le Vendée avec le temps. Au début, c'était une aventure. Il y avait plein de garçons et de filles comme vous qui se lançaient avec 3 francs 6 sous et qui essayaient de faire le tour du monde. Ça reste évidemment une aventure, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est la performance pure qui compte, et aussi d'avoir des bateaux toujours plus chers, toujours plus rapides, toujours plus connectés. Vous n'êtes pas parti dans cet esprit-là. Comme quoi, on peut encore faire le Vendée comme ça. Mais bon, à la limite, parce qu'on a bien compris qu'à partir d'une certaine date, vous n'êtes plus invité, quoi. Si vous arrivez 117e jour, c'est à la porte, quoi. Est-ce que vous en voulez, quelque part, aux organisateurs d'avoir appliqué cette règle et de ne pas d'avoir fait une exception? Vous êtes parti, vous êtes arrivé, vous avez respecté les règles. Franchement, c'est pas très sympa de leur part.
Ouais, alors ça, c'est une question d'opinion. Après, je dirais que sur le moment même, non, j'en veux pas aux organisateurs. Ils ont posé une règle. C'est avant, en amont, où il fallait voir si cette règle était intelligente. Voilà, moi, je pense que la course au large, c'est comme les histoires d'amour. On sait quand ça commence et on sait jamais quand ça termine. Et que c'est dommage, si on commence une histoire d'amour, de savoir qu'il y a une date de fin, parce que sinon, on n'y va pas, quoi. Et que dans l'avenir, ben voilà, moi, je prends toujours l'exemple d'Yves Parlier qui avait mis 126 jours. Si on réduit le temps de parcours, ça va favoriser finalement les abandons, parce que les gens, ils vont se dire, je vais jamais y arriver, donc c'est mieux que j'abandonne, parce que c'est pas la peine de continuer. Donc je pense que ça fait pas partie de l'esprit du Vendée Globe. Après, j'ai des règles, ça c'est comme tous les sports, hein, il faut des règles, il faut un arbitre, et il faut les respecter derrière ça, hein, ça c'est comme ça.
Ouais, et puis une histoire d'amour de 117 jours, c'est plus une histoire d'amour, c'est une amourette, hein. Enfin,
ça dépend pour qui. Hein.
Bien, 4 mois, la passion reste intacte.
Ouais, voilà. Ok, donc c'est de la passion. Le Vendée Globe, c'est la passion. Et Denis est venu nous le dire aujourd'hui.
C'est la passion et des galères, quand même.
Merci beaucoup. Au bout de 4 mois, c'est quand même pas les galères tout de suite.
Non, ça n'est pas avec les galères.
Normalement, pas trop.
C'est dommage que Denis soit pas là, il nous aurait éclairé là-dessus.
Merci, Denis, d'avoir été avec nous. Et franchement,
Denis Charvet.
Oui, j'ai bien compris. Et franchement, on vous accueille avec grand plaisir dans cette émission en studio avec nous. Là, je sais que vous êtes très pris en Belgique par les médias et tout ça, mais ce sera un plaisir de vous accueillir de nouveau. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Et encore bravo et félicitations pour ce Vendée Globe. Félicitations à tous les navigateurs, à tous les skippers, et on pense notamment à notre Français, Fabrice Amédéo, qui a terminé avant-dernier. C'est important de lui.
Et il se demande quel est le vrai dernier, du coup.
Allez, merci beaucoup les GG d'avoir été avec nous ce matin. Merci Christophe, merci Marion, merci Philippe. Merci Julien, on se retrouve demain à partir de 9h autour de France-Écosse, autour du classique Paris-Saint-Germain-Marseille et autour du Grand Prix d'Australie. C'est demain à 5h du matin. Bref, une émission encore exceptionnelle demain. On vous embrasse tout de suite, les Paris RMC.